Et donc notre étude va continuer pendant quelques fois. Donc quand j'ai dit quelques fois, ça veut dire deux fois par mois je vais prêcher et deux fois par mois d'autres personnes vont prêcher. Donc après Arthur, c'est Franck. Et après Franck, c'est moi encore. OK? Donc quand je prêche, je vais aborder cette épître Galate qui est plus de deux fois plus long que Tite. Donc, je ne vais pas torturer vos esprits en allant mot à mot à travers six longs chapitres. Mais ils sont quand même des longs chapitres. Et pour voir tout ça, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, je fais que certains résumés. Donc, aujourd'hui, on est toujours dans, à travers, on fait un peu dans plusieurs chapitres dans Galates. Et aujourd'hui, j'ai donné le titre Paul, apôtre de la grâce de Dieu. Paul, apôtre de la grâce de Dieu. C'est le titre que j'ai donné en ce message. Donc, il y a des ennemis de l'Évangile qui ont traversé la Galatie disant que Paul était un faux apôtre et que son Évangile n'était pas vrai. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment Paul défend son autorité apostolique et aussi l'Évangile. Paul est né juif. Il avait le nom Saul, comme l'ancien roi Saul, Saul. Il pratiquait le judaïsme consciencieusement, avec toute l'énergie humaine qu'il possédait. Il s'était donné à 100% dans les efforts de vivre une vie parfaite afin d'obtenir le salut par les mérites de ses œuvres personnelles. Dans son zèle pour la loi de Moïse, il a même persécuté les chrétiens. C'est pour cela, plus tard, bon, maintenant qu'il écrit cette lettre, Paul peut comprendre les désirs et les erreurs des Juifs. Paul respecte et aime les Juifs. Le Saint-Esprit a inspiré les Écritures à travers les Juifs. Tous les prophètes étaient Juifs. Jésus était Juif. Les apôtres étaient Juifs. Tous les premiers chrétiens étaient Juifs. Et comme j'ai déjà dit, Paul était Juif. Depuis que Paul s'est converti à Christ, il a toujours et il a continué à aimer ses confrères, les Juifs, et voulait qu'ils soient sauvés. Il va juste à dire dans Romains chapitre 9, versets 2 et 3, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans mon cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites. Dans ses écrits inspirés du Saint-Esprit, il maintient toujours une distinction entre l'Église, Israël et les païens. Les païens sont les nations, les goyims, sans connaissance de Dieu, vivant dans les ténèbres. Donc Paul les décrit dans Romains chapitre 1, le paganisme. Israël est la nation élue, descendante et héritière des promesses faites par Dieu à Abraham, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Dans leurs écrits, Paul, Jean, Jésus, tous en accord avec plusieurs prophètes de l'Ancien Testament, affirment un avenir spectaculaire pour la nation d'Israël. C'est à elle et à travers elle que Dieu s'est révélé à l'humanité par les prophètes, par les Écritures, et puis à la fin, par le Seigneur Jésus-Christ, lui-même. Paul spécifie néanmoins dans Romains chapitre 9 et verset 6 que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est une phrase intéressante. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Personne n'est sauvé par le moyen de sa parenté. On n'est pas enfant des parents chrétiens, donc un chrétien. Non. Les parents peuvent être chrétiens ou pas, et l'enfant deviendra ou pas chrétien. Mais ce n'est pas par la parenté. C'est peut-être plus facile. Si vous avez des parents athées, criminels, ce sera peut-être plus difficile de bien connaître l'Évangile que si vous avez des parents qui croient en Jésus. Hein? Mais la parenté n'assure pas le salut. D'ailleurs, Paul montre dans cette lettre aux églises de la Galatie que les rites et les lois de l'Ancien Testament n'ont aucune valeur pour sauver les gens. Paul lui-même est un exemple qui démontre l'incapacité qu'ont les lois et les rites à sauver qui que ce soit. Tout ce qu'il avait considéré d'important pour obtenir son salut en tant que juif, tout ça, il a abandonné quand il s'est confié à Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, je parlais des païens, des goyims, donc Israël, la nation élue, et maintenant l'Église. L'Église, c'est les personnes sauvées. Le corps des croyants en Jésus-Christ. L'Apocalypse nous dit qu'à la fin, il y aura des croyants de tous les peuples, nations et langues au paradis. Malgré le contexte de cette lettre contre les prédicateurs judaïsants, Paul va terminer sa lettre dans Galates 6, verset 16, en saluant tous les vrais chrétiens, et en particulier les juifs convertis à Jésus, ce qu'il va appeler l'Israël de Dieu, les juifs sauvés. Il salue tous les chrétiens, et en particulier, il salue l'Israël de Dieu. Un peu, je ne sais pas exactement, mais suite à sa conversion, Saul de Tars, d'après l'hébreu, a changé son nom en Paul, d'après le grec, afin de créer une distinction entre Saul, l'ancien juif, et Paul, le nouveau chrétien. Cette conversion à Jésus-Christ par l'Évangile est la base de son argument dans cette lettre. Depuis la première phrase de cette lettre, Paul clarifie d'où vient son ministère. Dans le verset 1, Galates chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Son apostolat vient du Dieu trinitaire. Nous avons baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le Dieu qui a mandaté Paul avec le message de l'Évangile. Sa rencontre avec le Christ ressuscité et sa conversion sont racontés dans Actes chapitre 9. Nous n'allons pas aller le voir, vous pouvez le voir à la maison. Ce qui s'oppose, donc, du fait que son apostolat vient de ce Dieu trinitaire, de Jésus lui-même, eh bien, ce qui s'oppose à l'évangile de Paul s'oppose aussi à Dieu. Si Paul voulait plaire à ses anciens partisans du judaïsme, il aurait continué à prêcher Moïse, mais il ne serait pas serviteur de Dieu. Au verset 10, Galates chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Le fait que Paul prêche Christ multiplie le nombre de ses ennemis. Paul rappelle l'origine de son message pour insister sur le fait que c'est Jésus-Christ lui-même qui lui a fait comprendre l'Évangile, et cela sans l'aide d'aucun homme. Verset 11. Je vous déclare, frère, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul rappelle de nouveau son témoignage aux chrétiens de la Galatie alors qu'il leur avait déjà raconté au début de son travail parmi eux. Il leur rappelle comment il avait été hautement placé dans le judaïsme avant de se convertir à Jésus et comment, à cette époque-là, il persécuter les chrétiens. Verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, j'interromps au milieu là, donc quant à lui-même, Paul exprime ici l'idée que, bien que dans son état d'homme pécheur, donc avant d'être sauvé, Dieu l'a formé pour devenir l'homme que Dieu voulait qu'il soit plus tard, suite à sa conversion, c'est-à-dire apôtre aux païens. Dieu agit d'une façon semblable avec chaque personne. Mais nous reconnaissons son œuvre dans nos vies seulement après avoir cru à l'Évangile, comme Paul le dit, après avoir répondu à son appel par sa grâce. C'est un concept assez complexe, difficile à expliquer, donc je donne simplement un petit bribe. Il faut comprendre que vous êtes aujourd'hui, si vous êtes né de nouveau, vous êtes aujourd'hui la personne que Dieu a fait de vous. Il y a beaucoup de monde qui dit, « Ah, ben, si seulement j'étais comme ceci ou comme si j'étais comme cela, oh, je serais meilleur chrétien que si j'avais un arrière-plan différent, etc. » OK? Bien sûr, vous êtes responsable de vos péchés. Donc, j'ai lu, ça tombait dans mon courrier électronique, témoignage de première mission avec un missionnaire avec ma mission, qui avait été gangster avant, dans l'équipe avec Al Capone déjà. OK? Et pourtant, il a pu, à travers le témoignage plus tard de sa femme et de sa fille, se convertir à Jésus. Il a été sauvé et il est devenu aumônier envers les prisonniers, dont les gens qui étaient de le même genre de vie ancienne qu'il avait. Ce n'est pas pour louer ses crimes, mais c'est pour montrer que Dieu utilise chacun de nous dans la façon qu'il nous a formé. Donc, chacun de nous est responsable de nos péchés, mais après votre conversion, par la sanctification de votre expérience de vie, Dieu utilisera votre personnalité et vos compétences pour que votre vie chrétienne soit utile à Dieu.
Je n'ai pas dit utile à moi, mais à Dieu, utile à Dieu. Il vous connaît à fond, moi je ne vous connais pas trop.
Nous notons l'importance de l'utilisation de ce mot « grâce ».
Plusieurs fois au mot ce mot « grâce ».
Car tout au long de cette lettre, Paul va opposer la grâce et les œuvres, le salut, et par la grâce de Dieu, sans aucune œuvre méritoire. Donc dans verset 16, la première partie, c'est chapitre 1, verset 16, on va relire verset 15. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. » Okay, de révéler en moi son Fils. « Dieu a sauvé, pardonné et purifié Saul. » Plus tard, dans chapitre 2, verset 20, Paul va dire « C'est Christ qui vit en moi. » Dieu a révélé en lui son Fils. Et encore plus tard, dans Colossiens chapitre 1, verset 27, Paul va dire « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Donc, ce n'est pas spécial que seulement Paul avait Christ en lui. Nous avons tous qui ont cru en Jésus, nous avons tous Christ en nous. Dieu a sauvé Saul de Tarse dans l'objectif qu'il apporte l'évangile aux païens. Et dans le même sens, Dieu nous sauve tous avec des objectifs de service. Il nous équipe selon son gré pour que nous lui soyons utiles. Verset 16, toujours, mais en continuant. Afin que je l'annonçasse parmi les païens. L'évangile, n'est-ce pas? Aussitôt donc, je ne consultais ni la chair, ni le sang, donc aucun homme, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais, au lieu de faire ça, il dit, je partis pour l'Arabie. En Arabie, il a étudié l'Ancien Testament, il priait beaucoup, communiait avec Dieu, pour comprendre l'Évangile qui était bien caché dans l'Ancien Testament. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Céphas, c'est Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Bon, ici, Paul souligne le fait que sa compréhension de l'Évangile vient seulement de sa relation directe avec Dieu. Aucun homme, il dit, ni sang, ni chair, ne lui a expliqué l'Évangile. Mais, plus tard, Paul a rencontré l'apôtre Pierre, au verset 19. Est-ce que j'ai sauté quelque chose? Non. Ok, donc il est allé chez Pierre les 15 jours-là, mais je ne vis aucun autre apôtre si ce n'était Jacques, le frère du Seigneur. Donc, Paul n'a pas rencontré d'autres apôtres pendant les 15 jours qu'il était avec Pierre, bien qu'il a rencontré Jacques. Jacques, le frère de Jésus. C'est ce Jacques qui a écrit l'épître de Jacques. Et Paul le mentionne ici exprès parce que il faut montrer que Paul... Oui. Ah oui, pour montrer que Jacques et Pierre ont tous les deux validé son message depuis l'origine de son ministère. Il a appris l'Évangile, donc il a cru en Jésus, mais il a compris l'Évangile par son révélation de Dieu, sa communion avec Dieu. Par la suite, il est allé, donc dans ça c'était toute une étude là, qu'il a fait en Arabie, etc. Après, plus tard, il est allé voir Pierre et Céphas, la première visite à Jérusalem. Par la suite, il a fait une seconde visite à Jérusalem, qui n'est pas mentionnée dans Galates. Et puis, il fait par la suite une troisième visite. Mais pour l'instant, il mentionne Jacques. Malheureusement, c'était quelques personnes de l'entourage de Jacques qui ont créé cette fausse doctrine « La foi plus les œuvres vous sauvent ». C'est les personnes de l'entourage de Jacques. Il ne dit pas que Jacques enseignait ça, et Jacques n'enseignait pas ça. Mais les gens qui étaient de ses copains, de ses quelque part disciples, mais qui n'étaient pas sauvés, ont promu cette fausse doctrine. C'est pour ça que plus tard, Paul va les appeler les hommes et les faux frères. Vous allez voir ça dans une minute. Verset 20. Dans ce que je vous dis, je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Donc ça c'est Actes chapitre 11, verset 25 et suivant. D'accord? Verset 22. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'est forcé alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Chapitre 2, verset 1. 14 ans plus tard, donc ça c'est la troisième visite, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et en pris aussi Tite avec moi. Pourquoi sont-ils allés à Jérusalem? Eh bien, on lit dans Actes chapitre 15, verset 1, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ces gens sont venus prêcher ça en Antioche. Alors, il m'est venu à l'esprit de vous faire cette petite comparaison, mais vous le savez, depuis longtemps, l'Église catholique a adobérisé la circoncision en baptême. Et donc, l'Église catholique enseigne, si vous n'êtes pas baptisé selon le rite de l'Église, vous ne pouvez être sauvé. C'est la même doctrine, un peu différente, mais c'est la même chose. Ce n'est pas biblique, c'est contradictoire. Donc, revenons au récit. Après le travail à Antioche et le premier voyage missionnaire parmi les païens, donc c'est vers l'année 48 ou 50, on n'est pas tout à fait sûr, Barnabas et Saul sont montés à Jérusalem, obéissant à une révélation de Dieu. Chapitre 2, verset 2. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais, donc à l'église de Jérusalem, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont le plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc, quand Paul et Barnabas sont montés à Jérusalem, donc c'est Actes chapitre 15, ils ont amené avec eux un converti, le jeune Tite. Donc, il est grec, il n'est pas juif, il est grec. Et c'est plus tard à cette même personne, Tite, que Paul va adresser l'épître de Tite. D'accord? Donc, il est là à Jérusalem pour la troisième fois. Donc, ça c'est Galates chapitre 1, verset 19, Actes chapitre 11, verset 30, et donc ici Actes chapitre 15. Et devant beaucoup plus de monde, Paul explique l'évangile qu'il prêche parmi les nations, c'est-à-dire les païens et donc les non-juifs. Et Paul s'assure d'exposer son message devant les apôtres et les anciens. Parce qu'autrement, si c'était que les chrétiens de tous les jours, bon, on aurait pu le critiquer. Mais il passa devant les apôtres pour être certain qu'il n'y a pas de malentendu. Or, selon les instructions de cette révélation, le Seigneur a voulu que Paul amène Tite le non-juif, comme test pour voir comment allait réagir l'Église de Jérusalem. Eh bien, les chrétiens de Jérusalem ont accepté Tite comme chrétien non-juif, comme ils avaient aussi accepté le non-juif Cornée et sa famille dans Actes chapitre 10. Donc, on est en Galates chapitre 2, me semble verset 3, Oui. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Tout ce conflit autour de la circoncision juive, dans la Galatie et aussi dans Actes chapitre 15, était provoqué par les ennemis de l'Évangile, que Paul a dénommé des hommes. Il n'a pas appelé les frères. Il les a appelés les hommes, en quelque part les humanistes religieux. Et dans Actes chapitre 15, verset 1, il les appelle les faux frères. Il parle de mêmes gens. Ce n'est pas les frères, ce n'est pas les gens sauvés, c'est des gens qui sont les faux chrétiens. Verset 4. Et cela, donc quand il dit cela dans le verset 4, c'est-à-dire toute cette polémique concernant la circoncision des non-juifs à Antioche et en Galatie et n'importe où. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Le faux message qui prétend qu'il faut des rites et des œuvres pour être sauvé vient des faux frères. C'est pour cela que Paul s'étonne que les églises de la Galatie acceptent une telle déviation de l'Évangile. L'église à Jérusalem avait déjà tranché cette question. Paul avait prêché l'Évangile simple et pur parmi eux. Donc, aux Galates, on a vu ça les dernières fois, Galates 1, versets 6 et 7. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc, reprenons dans Galates chapitre 2 et verset 5. Nous ne leur, donc leur c'est les faux frères à Antioche et à Jérusalem, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Alors vous c'est, en fait, il écrit aux chrétiens de la Galatie, mais il parle des païens dans le monde entier qui se convertissent à Jésus-Christ. Verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, jadis, qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Donc il parle des autres apôtres, d'accord, mais il laisse un peu flou là. Dieu ne fait point d'exception de personne. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on dit que le texte biblique est inspiré, mais les apôtres n'étaient pas inspirés. Dieu œuvrait à travers les hommes pour que les textes bibliques soient inspirés. Mais quand Pierre fait une faute, ou quand il a dit quelque chose, fait quelque chose qui n'était pas de Dieu, c'était pas de Dieu. C'était pas inspiré, parce qu'il n'était pas inspiré. Il était un instrument de Dieu pour le service de Dieu. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les circoncis, comme à Pierre pour les... car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. L'église de Jérusalem, l'église d'origine à Jérusalem, avec les apôtres et les anciens, n'ont pas demandé que Tite soit circoncis. Pierre et toute l'église ont reconnu que Dieu a établi Paul apôtre envers les païens. Verset 9, encore. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas, donc c'est Pierre et Jean, les trois grands apôtres, bon, Jacques, c'est le frère de Jésus, mais les grands apôtres et anciens, qui sont regardés comme des colons, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Tournez rapidement à Actes chapitre 15. Nous allons lire juste quelques bribes là-dedans. Actes chapitre 15. Et on va lire versets 5 et 6. On va voir déjà le problème. Nous lisons dans Actes 15, versets 5 et 6. Alors, quelques-uns de parmi les pharisiens, donc, déjà de mauvaise publicité dans les évangiles, n'est-ce pas? Pas entièrement mauvaise publicité, mais une certaine mauvaise publicité. Mais il dit, qui avait cru sont des chrétiens. OK? Il ne focalise pas en ce moment sur comment être sauvé, mais que devons-nous pratiquer le christianisme. OK? Alors, quelques-uns parmi les pharisiens qui avaient cru en Jésus-Christ se levèrent et disent qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Oh, ça alors, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Ils n'ont jamais réfléchi à cette question parce que c'est quelque chose de nouveau. Avant, c'était quasiment que les juifs. Mais maintenant, il y a plein de païens qui commencent à se convertir. Donc, ils examinent cette affaire. Et une grande discussion qui était engagée, et puis on va sauter au verset 22, à la fin de tout ça. Alors, il parut bon. Donc, ils vont écrire. C'est écrit maintenant, la conclusion de toute cette affaire. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, d'envoyer donc Jude, appelé Barsabas, et Silas, homme considéré entre les frères de Jérusalem. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères donc de Jérusalem, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, à souligner, vous ont troublé et par le discours ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir les délégués et de vous les envoyer, les délégués, avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit. On ne veut pas rater ce mot-là, parce que ça c'est Dieu. Ça c'est l'opinion de Dieu, c'est une directive. Et tout ce que Paul va faire par la suite va être construit là-dessous. Il ne va pas effacer ça par la suite. Là, il a ses ordres de marche depuis les autres apôtres. Et c'est cela qu'il va raconter, il va construire tous les épîtres, tout ça sur cette base. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que quand vous êtes païens et vous êtes convertis à Jésus, que ce qui est nécessaire, savoir, voilà le savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité ou de l'immoralité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Fini. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche et ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Donc notez bien, la conclusion du Saint-Esprit est nette. Dieu veut que les païens convertis à Christ ne soient pas circoncis et qu'ils n'observent pas la loi de Moïse. C'était la question. Les gens pharisiens convertis à Jésus disent « Il faut circoncire et observer la loi de Moïse. » Grande discussion, conclusion, non. Aussi efficace que ça, c'est droit. Malheureusement, et c'est ça le problème même pour nous, avec le passage du temps, même les bons chrétiens peuvent devenir ou faire, peuvent dévier ou faire des erreurs. Comme nous tous, n'est-ce pas? Attention à vous si vous vous considérez protégé de toute erreur. On est dans Actes chapitre 2. En dépit de l'instruction du Saint-Esprit, même l'apôtre Pierre et plus tard même le frère Barnabas ont reculé momentanément de l'évangile simple et pur. Mais Paul a défendu l'évangile contre cette erreur de Pierre et de Barnabas. Il dit au verset 2:11, « Mais lorsque Cephas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'équiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs, donc les gens des églises, de l'église là, les juifs à Antioche, usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Bon, cette confrontation nous a été transmise ici dans le texte pour nous montrer que Paul n'était pas un apôtre de deuxième ordre, mais de le même niveau que Pierre, et qui pouvait réprimander Pierre. Verset 14, « Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, donc ils tordaient dans leur pratique l'Évangile, je dis à Cephas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ. Nous aussi, nous comme les autres apôtres, nous comme les chrétiens de Galatie, etc. afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nous, chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Paul montre par ce récit qu'il avait le devoir de reprendre Pierre et Barnabas et les autres avec l'autorité de son mandat donné par le Seigneur. Et par la même autorité, il est en train d'écrire aux chrétiens de la Galatie pour leur remettre dans le bon chemin aussi. Ainsi, Paul rappelle aux chrétiens, aux croyants de la Galatie, qu'ils sont croyants, des païens convertis à Jésus, grâce à l'évangile que lui-même a prêché parmi eux. De ce fait, il ne faut pas être circoncis. C'est le message qu'il avait de Jésus, mais secondé quelque part par l'église de Jérusalem. Il ne faut pas circoncire les païens, et il ne faut pas mettre en pratique la loi de Moïse. On saute à Galates chapitre 4, verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Donc, c'est peut-être leur dieu était du bois ou de plâtre ou qui sait quoi. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous seriez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retrouvez-vous assez faible, retournez-vous assez faible et pauvre rudiment, auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé parmi vous. Paul leur rappelle maintenant que c'est bien lui qui les a amenés à Christ. Soyez, verset 12, comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères. Je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. C'est-à-dire, Paul est en train de dire, je vous aime bien dans le Seigneur. C'est ça, je vous aime. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai, pour la première fois, annoncé l'Évangile et mis à l'épreuve par ma chair. Vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? C'est-à-dire, pourquoi vous ne m'aimez plus? Pourquoi vous détournez de moi? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez, à cette époque-là, arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité, que l'Évangile est toute simple, par la foi, sans les œuvres? Verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Maintenant, on va sauter à chapitre 5, verset 2, où Paul va affirmer encore son autorité apostolique conférée par Dieu. Verset 2. Voici, moi, Paul, je vous dis que. Ça me rappelle où Jésus dit la même chose. Vous avez entendu dire que, mais moi, je vous dis. OK? Donc, c'est l'autorité de Dieu qui parle ici à travers Paul. Voici, moi, Paul, apôtre, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Pourquoi voulez-vous désobéir au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a dit, non, il ne faut pas circoncire les païens. Non, les païens ne doivent pas, en se convertissant à Jésus, mettre en pratique la loi de Moïse. Donc, pourquoi voulez-vous désobéir au Saint-Esprit? Il n'y a aucun avantage à devenir juif. Paul avait été juif avant sa conversion et ses œuvres n'avaient aucune valeur pour le sauver. Soit vous vous présentez devant Dieu avec vos œuvres sales et inutiles, soit vous vous présentez devant Dieu avec la justification par Jésus-Christ. Toutes les religions enseignent un salut par les œuvres. Mais Dieu offre seulement le salut par la grâce, par la foi, dans l'Évangile et sans aucune œuvre. Il faut un ou l'autre, mais un mélange n'est pas possible. Vous confiez dans vos œuvres et vos mérites rendent la foi en Christ inutile. Je suis presque fini. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu, serait disparu. Le fait que les Juifs persécutaient Paul est la preuve même qu'il ne prêche pas la circoncision. Ça n'a fait aucun... Il n'y a pas de place dans l'Évangile pour la circoncision. Dans le verset chapitre 6, verset 16, Paul dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Et dans le deuxième épître aux Corinthiens, fin du chapitre 11, on a toute une liste des détails concernant les persécutions, des choses que Paul a subies pour le Seigneur. Et il dit, les cicatrices visibles sur mon corps parlent bien de ces persécutions aux mains des Juifs et aux mains des païens. Chapitre 6, verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Donc, afin de rassurer les églises de la Galatie que cette lettre est authentique, Paul l'a écrit de sa propre main au lieu de la faire retranscrire par un frère comme dans son habitude. Donc, on est en train de voir ce qu'on a vu d'ailleurs, Paul en tant qu'apôtre. Et on a critiqué qu'il n'était pas un vrai apôtre et que son message n'était pas le vrai évangile. Mais nous avons vu à travers le message, donc je vais résumer très rapidement, que Paul prouve l'authenticité de son apostolat et de son message, premièrement, quand il invoque Dieu et Jésus-Christ comme l'autorité des deux. Dieu est l'autorité de son apostolat, Dieu est l'autorité de son message. Il a montré que Pierre, Jacques et Jean et l'Église de Jérusalem ont tous reconnu l'authenticité de son apostolat et de son message. Et puis, il mentionne que les Juifs le persécutaient parce qu'ils ne prêchaient ni la circoncision, ni la pratique de la loi de Moïse. Aussi, le fait que Pierre a été réprimandé, il a accepté la réprimande de Paul, montre l'authenticité de l'apôtre, de l'apostolat de Paul. Et puis, les cicatrices sur son corps déclarent l'authenticité de son apostolat et de son message. Le seul évangile, pur et simple, est celui de la grâce, que l'on accepte par la foi, seul, sans aucune œuvre ni mérite. Si vous n'y croyez pas, vous n'avez aucun espoir devant Dieu. Si vous y croyez, vous êtes sauvés, pas parce que vous êtes une bonne personne, non, mais par la grâce, sur la base de l'Évangile.